Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Né en 1930 à New York, Harry Matthews a étudié la musique et publié ses premiers poèmes en 1956 aux États-Unis. Avec le poète américain John Ashbery, rattaché comme lui à la dénommée École de New York, il a fondé la revue américaine de poésie Locus Solus. Matthews s'installa en France dans les années 50 et fit en 1970 la connaissance de Georges Perec, par l'entremise duquel il rejoignit l'Oulipo. Quelques semaines après la mort de ce dernier, en 1982, Matthews reprit pour son compte la formule du célèbre « Je me souviens » et écrivit chaque jour, pendant quelques mois, un ou deux « Je me souviens » de Georges Perec. Non pour lui rendre hommage, ni pour puiser dans le passé, écrivait-il, mais pour faire face, par l'écriture aussi, à l'accablement qui, à ce moment-là, assaillait beaucoup d'entre nous. Le recueil de ces « Je me souviens », intitulé « Le verger », est paru en 1986. On y trouve notamment cette phrase « Je me souviens d'avoir ressenti un grand bonheur le jour de juin 1975 où je me rendis compte que j'aimais Georges Perec sans réserve ». C'est peu de temps après ce mois de juin que Perec et Matthews enregistrèrent, pour la série d'émissions Poésie ininterrompue, proposée par Claude Royer-Journoux, un entretien dans lequel Perec interrogeait Matthews sur son parcours littéraire et poétique. Si elle n'est pas nommée, on devine l'amitié qui unissait les deux hommes dans leur écoute réciproque. Pour cette série d'émissions, Matthews enregistra également une sélection de textes qu'il lut lui-même au micro. Nous vous proposons cette nuit d'entendre l'entretien entre Georges Perec et Harry Matthews, puis les autres nuits de cette semaine, de découvrir quelques-uns des textes qu'il avait choisis pour l'occasion. Poésie ininterrompue, Harry Matthews interrogé par Georges Perec, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 août 1975.
Harry Matthews, pour essayer de vous présenter, je vais résumer votre carrière littéraire, votre travail littéraire, votre travail d'écrivain. Vous écrivez depuis, à ma connaissance, depuis une vingtaine d'années. Ces 20 ans, vous les avez passés surtout en France. Vous avez dirigé une revue américaine qui s'appelait Locus Solus, qui a eu 5 numéros, je crois. Vous avez publié un roman chez Gallimard il y a quelques années qui s'appelle Conversion. Et un autre, chez De Noël, dans la collection des lettres nouvelles, l'année dernière, qui s'appelle « Les versants de moutarde de l'Afghanistan ». Par ailleurs, vous avez publié 2 recueils de poésie aux États-Unis, un troisième qui est en préparation. Un troisième roman non encore traduit en français vient d'être publié avec les 2 autres aux États-Unis. Enfin, ça c'est, disons, en gros, pour essayer de vous situer. Donc vous avez une activité qui est d'une part romancier, d'autre part poète, directeur de revue aussi pendant un certain temps, également traducteur puisque vous avez traduit un certain nombre de poètes français. Et puisqu'il faut qu'on parle de la poésie, enfin la première question que je pourrais vous poser, c'est comment est-ce que ça vous est venu ?
J'ai commencé par la poésie très jeune, à 11 ans. C'était après la musique, la première passion artistique que j'avais, due, je suppose, surtout à ma mère et à mon grand-père maternel, qui était très cultivé du point de vue littéraire et qui m'ont lu assez jeune des poésies surtout des romantiques anglais. Donc j'ai commencé à 11 ans à écrire des poèmes, j'ai écrit beaucoup, jusqu'à l'âge de 18 ans. Arrivé à l'université en Amérique, j'ai vite perdu mon souffle, si on peut l'appeler ainsi. Je pensais que cet amour d'écriture m'était passé et je n'ai rien fait pendant la durée de mes études universitaires. Une fois diplômé et sorti de cette ambiance qui paraît-il, ne me convenait pas, au moins sous cet aspect-là, j'ai vite repris goût et j'ai recommencé à 23 ans, il me semble, à écrire des poèmes. Ce n'est pas tout à fait une réponse à votre question, mais je ne sais pas si je pourrais vous donner une réponse, tant l'acte d'écrire des poèmes remonte loin dans mon passé.
C'est-à-dire, il y a une coupure dans le temps. Vous dites que vous avez écrit des poèmes jusqu'à 18 ans et ensuite vous êtes arrêté et vous avez recommencé à 23 ans. Mais vous ne faites pas une coupure dans cette activité. Par exemple, vous ne reniez pas ce que vous avez écrit entre 11 et 18 ans.
Non, pas du tout. Je l'ai déjà détruit il y a longtemps, mais c'était une vraie passion.
Qu'est-ce qui vous donnait envie? Quels étaient les auteurs qui vous donnaient envie d'écrire de la poésie?
J'ai surtout aimé Keats vers l'âge de 11 et 12 ans. Et ensuite, pendant 2 ou 3 ans, j'étais vraiment enthousiasmé par la poésie de Robert Browning, qui je crois n'est pas tellement connu en France, d'ailleurs qui est tout à fait tombé de la mode actuelle dans les pays anglo-saxons. La grande révélation pour moi, c'était Eliot, que j'ai commencé à lire vers l'âge de 14 ans. Et c'est à travers lui que j'ai vraiment commencé à voir ce que c'était non seulement la poésie moderne, mais la littérature moderne et même l'art moderne. Je suis resté d'abord très longtemps sous son influence. J'ai mis très longtemps à me débarrasser d'une obsession que j'avais à donner à cette poésie d'Eliot, qui est une poésie très influencé par les symbolistes français, a donné à cette poésie un contenu qu'il n'a pas. En fin de compte, c'est grâce à ce manque de contenu en tant que contenu peut-être éthique, on peut dire, ou contenu de ce qu'on appelle parfois le message, que j'ai appris qu'au fait, la poésie a un contenu propre qui n'a rien à voir avec ce qui peut être dit en d'autres mots.
Comment est-ce que vous rejoignez, disons, comment est-ce que, disons, vous comprenez votre travail ou... Et comment vous le reliez actuellement, aujourd'hui, disons à la poésie américaine, contemporaine, et à la poésie française aussi?
Je suis un peu assis entre deux chaises du fait, pendant longtemps, j'ai travaillé seul, et je me suis formé un peu, sans avoir beaucoup de contact, soit avec les poètes américains, soit avec des poètes français. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à être influencé par eux, j'avais déjà des idées, non pas très nettes peut-être, mais assez développées quand même, sur ce que je voulais faire. Pourtant, on doit dire que le grand moment de changement pour moi est venu en 1956, quand j'ai rencontré à Paris John Ashbery, qui est, si on peut dire, la tête d'école de ce qu'on appelle parfois l'école de New York, c'est-à-dire ce groupe de poètes qui rassemble aussi bien Kenneth Coke, Frank O'Hara, qui est mort il y a quelques années, James Schuyler, surtout eux et nombre d'autres. Cette école a un aspect très européen. C'est une poésie qui a des préoccupations qui ne seraient pas étrangères à de nombreux poètes européens, surtout français. Il n'y a pas tellement d'influence directe, je veux dire de texte à texte. C'est surtout une influence de pratique.
Mais quand vous rencontrez Ashbery, enfin c'est l'époque où avec lui, vous et Kenneth Coke, vous fondez une revue qui s'appelle Locus Solus. Locus Solus vient de Roussel. Quel est le rôle que joue Roussel?
Parce que... Oui, bien sûr. Mais c'était un peu plus tard. Locus Solus était fondé en 60, quelques années plus tard. Entre-temps, à travers Ashbery, j'ai d'abord connu la poésie d'Ashbery qui m'a beaucoup marqué, enfin pas marqué mais beaucoup impressionné. À travers lui, j'ai fait connaissance des poètes américains que je connaissais mais auxquels je ne prêtais pas une attention très grande, comme Wallace Stevens. D'autre part, Ashbery, avec qui je suis devenu vite très ami, a donné le coup de pouce à mes lectures de poètes modernes français. J'avais sur ma table depuis des mois, sinon des années, les livres de Michaud, Deluard, Reverdy, tous les classiques de l'époque moderne. H. Paris m'en a parlé d'une façon qui me les a rendus très intéressants. Et je peux dire que j'étais même influencé par Michaud avant de l'avoir lu, à travers cette idée de son écriture que me donna H. Paris. C'est un peu d'ailleurs analogue à cette influence des poètes français sur les poètes de l'école de New York. Les Américains, les Anglo-Saxons peut-être, les Anglais aussi bien que nous, nous sommes assez arriérés quant à l'idée de la spécificité du langage, ce qu'on appelle maintenant le côté signifiant. On a beaucoup de peine, enfin en général, les poètes et ont beaucoup de peine à jouer avec la langue. Ça peut paraître incroyable, n'est-ce pas, quand on pense à Carroll et à Edward Lear et à tant d'autres poètes, mais c'est pourtant vrai. L'attitude envers du langage des dadaïstes et surréalistes, surtout de Mallarmé, les gens qui l'ont influencé, qui ont donné une idée de ce qu'on pourrait faire en langue anglaise d'analogue. Mais je pourrais peut-être venir à Raymond Roussel. Roussel était, je crois, pratiquement inconnu de nous tous jusqu'en 54 ou 55, quand Kenneth Coke était en train d'acheter des livres chez José Corti, rue de Médicis. Il achetait surtout des surréalistes, il était très jeune à cette époque-là, et c'était son premier contact avec la poésie moderne française. Et on achetait tous les surréalistes, et avait demandé à Corti, est-ce qu'il y a autre chose qui serait intéressant ou amusant? Et Corti lui a signalé les nouvelles impressions d'Afrique. Coke en a traduit un des chants, il en a parlé à H. Paris, qui à un moment donné a même pensé, tant il était intéressé à Roussel, à écrire sa thèse de doctorat dessus. Une chose qu'il, malheureusement, il n'a jamais fait. Bien qu'il ait fait beaucoup de recherches très utiles et intéressantes sur Roussel. Et c'est par H. Paris, encore par lui, que j'ai connu Roussel, qui pour moi était un grand événement en ce qui concerne l'écriture de la prose, pas de la poésie.
De la prose.
En tout cas, nous étions tous frappés par l'exemple de Roussel, frappés par son œuvre, de manière très diverse. Et c'est à cause de cela qu'on a choisi comme titre de la petite revue qu'on a fondée, Locus Solus, qui est le titre, bien sûr, du plus grand des romans de Roussel.
On reviendra peut-être à Roussel tout à l'heure, mais je crois qu'on pourrait parler un peu de Locus Solus, parce que en 5 numéros, Locus Solus a publié beaucoup de poètes américains, un certain nombre de poètes français que vous ou d'autres ont traduit.
Oui, je voudrais vous interrompre pour dire que nous étions le premier à publier Denis Roche. Il n'y avait pas même de revue française qu'il avait publiée.
Oui. Voilà. Quelle est l'image que vous retirez maintenant de ce travail que vous avez fait dans cette revue et de l'influence qu'elle peut avoir ou ne pas avoir d'ailleurs sur la poésie américaine?
Je crois que l'image qu'on pourrait avoir maintenant de Locus Solus sera forcément différente de toute image qu'on aurait pu avoir si on en avait une à l'époque où on travaillait là-dedans. Ce qu'on a voulu faire surtout, c'était de publier nos propres œuvres et les œuvres des gens littérairement proches de nous et qui trouvaient une difficulté à publier. Depuis, moi j'ai publié trois romans, et puis des recueils de poésie. H. Paris a publié 4 ou 5, Coke est devenu très célèbre, James Schuyler a édité beaucoup, mais à cette époque-là, ils avaient, je crois, peut-être publié un premier volume. Moi j'avais seulement un manuscrit en lecture, et on se sentait très découragé par les possibilités que nous offraient l'édition, même les little magazines, les petites revues des États-Unis de ce moment-là. Donc, on avait un peu d'argent, pas beaucoup, qui nous est venu à la suite d'un héritage qu'on a consacré à faire cette revue. À l'époque, beaucoup de monde, même des gens qui nous aimaient bien, et qui pensaient que nous n'étions pas tout à fait dépourvus d'intelligence et de talent, nous disait qu'on se trompait en se limitant à nous-mêmes et aux gens que nous aimions vraiment d'une façon très personnelle. On dit, on ne peut pas faire une revue comme ça, il faut au contraire chercher des gens qui sont très différents, avoir une revue beaucoup plus ouverte. Et nous, on ne voulait absolument pas avoir une revue ouverte, on voulait une revue absolument fermée. Enfin, absolument fermée, parce qu'on acceptait de textes des gens qu'on ne connaissait pas, et d'ailleurs qui différaient souvent de ce que nous faisions nous-mêmes. Mais après coup, c'est-à-dire maintenant, quand on revoit la revue, c'est cette obstination à faire ce que nous voulions faire, nous quatre, qui donne à la revue sa valeur. Il y a beaucoup de gens qu'on a publiés, mais je veux dire qui ont fait bien d'autres choses que nous.
Eisenhower, par exemple.
Eisenhower. Mais lui, il n'était pas... Ce numéro dont vous parlez, où le président Eisenhower était... comment est-ce qu'on dit, un contributor,
collaborateur.
Un collaborateur involontaire est un numéro de collaboration, d'œuvre écrite en collaboration. Ça a fait beaucoup d'effets.
Quelle différence vous faites entre votre activité de prosateur, de romancier, et votre activité de poète?
Là aussi, je crois que je dois me dérober parce que pour moi, c'est une... D'abord, je dois dire que je ne fais aucune différence, a priori, entre la prose et la poésie. Et je crois que c'est impossible de démarquer de l'une de l'autre d'une façon absolue. Pour moi, c'est une question de pratique personnelle. C'est-à-dire que dans la poésie, je pars toujours... Pas toujours, mais je pars très souvent dans la partie la plus importante de ma poésie. Je pars d'un événement hors texte. Un événement qui n'est pas un événement littéraire, un événement de ma vie, ou de la vie de notre, mais je veux dire, un événement qui se passe dans le monde dit réel, enfin je l'ai dit avec plusieurs paires de guillemets.
Vous pouvez donner un exemple d'événement? Par exemple, quel était le point de départ du nageur, disons?
Et il y a eu une espèce de mauvaise cristallisation dans les rapports avec les femmes avec qui je vivais à l'époque, qui m'ont laissé dans une espèce de désespoir. Et le nageur, n'est-ce pas, le poème qui raconte cet essai de passer l'Atlantique à la nage, est une... Qu'est-ce qu'on disait au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, conceit, on dit, quand on façonnait. Je veux dire, c'est une métaphore très exagérée, baroque, pour non pas exprimer peut-être, mais pour dépeindre, pour décrire ce que je ressentais à cette époque-là. On voit bien que l'événement qui a provoqué ce poème ne laisse pratiquement pas de traces directes.
Il reste étranger au poème.
Reste étranger, mais c'est peut-être une faute. Je veux dire que j'ai toujours été tellement préoccupé de cet aspect impersonnel et merveilleusement impersonnel qui se trouve chez Mallarmé en France, chez Eliot en anglais, que j'ai peut-être donné des obstacles inutiles à l'acteur, que j'aurais pu laisser des indices qui faciliteraient l'entrée dans le poème, pas dans celui-là qui n'est pas tellement difficile, mais dans d'autres qui sont restés hermétiques à un degré que je n'aurais pas voulu.
C'est pas seulement le poème ne fonctionne pas comme une trace, enfin c'est pas seulement une trace.
Je ne sais pas, c'est certainement une idée que la trace serait plus intéressante au niveau d'un texte écrit que tout sentiment ressenti dont on pourrait éventuellement chercher à le charger. Je ne crois pas que c'est... C'est une discussion assez longue, là. À savoir, oui, bien, on peut en parler. On approche, n'est-ce pas, aussi des problèmes de la fiction. Et surtout, je suppose, du problème du jeu qui parle dans un poème, qui n'est pas le jeu moi, Harry Matthews. Je veux dire que il y a un rapport qui, je crois, n'est jamais stable, n'est jamais fixe entre ces deux jeux. Dans la poésie, je crois que je cherche toujours à garder au moins l'illusion, la fiction d'une voix réelle, une voix probable, une voix qui serait éventuellement la mienne.
Oui. D'une certaine manière, je ne sais pas si c'est exactement c'est ça qu'on appelle un palimpseste. Je veux dire, c'est vraiment comme s'il y avait un texte ancien, enfoui, que le poème va complètement recouvrir, en laissant affleurer seulement ce qui, disons, par l'effet du hasard, l'endroit où le parchemin a déjà été entamé, et où par conséquent l'encre va un peu remonter, ou va... Ce qui fait qu'il y a une sorte, c'est une sorte de travail de codage, qui donne un texte, qui est, oui, qui est quelque chose que l'on peut saisir, disons, d'une certaine manière, dans tout le libre jeu du langage, ou bien le jeu sous contrainte du langage, enfin l'utilisation des sextines, etc. Alors, est-ce que, disons, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est peut-être une question qui n'a aucun sens, est-ce que la poésie, ça consiste pour vous à effacer en mettant quelque chose dessus, ou bien à mettre quelque chose dessus pour que ce qui est en dessous apparaisse par la manière dont ça a été dérobé ? Ça a été effacé.
Si je dois choisir, je crois que c'est la couche passée par-dessus l'autre qui porte le poème, qui est la force motrice du poème. Et il doit laisser pourtant transparaître, même d'une façon très partielle, mettons qu'il doit laisser transparaître la possibilité de cet autre fond. Pour que les mots ne soient jamais fixes, pour que l'activité se passe entre les mots et non pas dans les mots. Je crois qu'une autre image qu'on pourrait utiliser, c'est que dans la poésie que j'écris, beaucoup plus que dans la prose, j'essaie de plier le syntaxe pour que les mots se cognent, pour que les mots se frottent, pour qu'il y ait un décharge à travers, au niveau très intime entre eux. Non pas peut-être fermé, plié c'est peut-être trop, mais il y a certainement des plis et des replis.
Est-ce qu'il y a quelque chose de musical ? Je veux dire, est-ce qu'il y a une relation entre ce travail ou cet effort dont vous parlez et vos activités musicales qui ont été presque professionnelles à une époque, qui sont restées...
Oui, j'étais surtout étudiant en musique pendant quelques années. Il est certain que la musique, d'une façon générale, m'a toujours servi, puisque c'était un art auquel je me sentais très proche, me servait comme une espèce de contrôle, une espèce de rappel à cette spécificité de toute forme esthétique, de toute forme qui se trouve dans une œuvre d'art, et que ce qui importait dans le poème était le texte et non pas l'expérience qui m'y a mené. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai peut-être exagéré même dans ce sens, en dégageant, n'est-ce pas, ce texte absolu dans le sens d'abstrait, si vous voulez, des éléments personnels qui ont participé à son invention. Je veux dire, par là, la musique, n'est-ce pas, est souvent puissante d'une façon qui, jusqu'à présent, n'a jamais été expliquée ou même décrite, autre que d'une façon très impressionniste, très subjective. D'autre part, la matière de la musique est beaucoup plus facile à manipuler que la syntaxe musicale, et tout au moins dans la musique classique, est assez exigeante. Mais on peut, par exemple, faire des inversions de raccords. Il y a tout la richesse de jeu d'effets de contrepoint, les effets canoniques. Et ces procédés m'ont souvent inspiré dans des recherches d'analogie, d'effets analogues dans l'écriture. On m'a souvent posé cette question, puisque les gens savaient que j'avais fait des études de musique, que je joue toujours, etc. J'aime beaucoup. Je m'intéresse toujours beaucoup à la musique. Dernièrement, je me suis rendu compte que la chose qui peut être, mais le plus utile, c'est l'exécution musicale, non pas la composition, mais le fait de jouer, soit seul, soit de la musique de chambre, et qu'il y a un effet d'intensité là, dans l'acte de produire, un moment après l'autre. C'est une activité extraordinaire de jouer, parce qu'il faut être vraiment là, il faut être dans le présent et non pas ailleurs. On ne peut pas se dérober et dire « je vais réfléchir sur l'accord que je vais jouer dans 10 secondes ». Il faut quand les 10 secondes ont passé, il faut le jouer où tout tombe.
Oui.
Et je crois que ça, c'était, si vous voulez, une influence, mais une espèce de point de référence.
Vous voulez produire le poème avec la même intensité que lorsque vous exécutez un morceau de musique ? Ou bien vous voulez que le lecteur lise le poème ?
Non, ça c'est le lecteur peut le lire tout autrement, mais je veux dire, peut-être ce que j'aime dans la poésie, ce que je recherche à refaire dans ma propre poésie, c'est ce genre d'accumulation de niveaux à chaque instant. Je dois dire que aussi, on peut de là, n'est-ce pas peut-être pas de ce fait-là, mais de la musique en général, de la musique comme système de composition, on peut entrer dans cette idée de contrainte du travail oulipien à travers les exercices de style de Raymond Queneau,
oui,
qui sont en effet des thèmes et variations. C'est un exemple classique. Je ne sais pas si lui, il a pensé à ça comme...
Oui, il a raconté qu'il a eu l'idée d'écrire les exercices de style en sortant d'un concert où on jouait, je crois que c'était les variations Goldberg.
Oui, très bien,
c'est exactement dans la préface.
Parce que c'est tout à fait, je veux dire, c'est une des rares analogies qui ont vraiment donné des résultats extraordinaires dont le transfert des formes musicales en littérature.
Mm. Quels sont les poètes que vous reconnaissez quand vous les lisez ? Je veux dire, quels sont ceux qui ont la même exigence que vous, le même, disons presque ce même désir, ou presque...
En français, ou...
Ou même...
Parce que j'ai déjà cité Ashbery et Schuyler, surtout qui sont des amis, bien sûr, mais que j'admire énormément et qui, pour moi, sont des espèces de pierres de touche, n'est-ce pas, en matière de poésie actuelle. En France, j'ai une admiration sans fin pour Mallarmé. Il me semble, n'est-ce pas, vraiment l'écrivain exemplaire pour la littérature assez... réduite que les possibilités littéraires que nous avons en Occident en ce moment, enfin qui dépendent non pas des individus, bien sûr, mais des conditions historiques. Étant coincé comme nous le sommes, je crois que Mallarmé a été celui qui a le mieux assumé les limitations de nos possibilités et qui a montré la voie à suivre. En ce qui concerne les influences, comme je l'ai dit tout à l'heure, Michaud a été très important pour moi. C'est un écrivain qui m'a vraiment libéré, qui m'a montré qu'on pouvait faire tout en poésie, je veux dire, pas tout, mais on pouvait faire des choses extraordinaires au niveau du je cherche à ne pas dire psychanalytique, mais c'est bien dans ce domaine-là. J'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour des poètes contemporains que j'ai d'ailleurs traduits, Denis Roche et Marcelin Plénet, qui faisaient partie du groupe Tel Quel. Enfin, Marcelin Plénet en fait toujours partie. André Dubouchet, qui me semble aussi poursuit un chemin très ardu et très intéressant. Maurice Roche devrait être cité. Bien, il n'est pas considéré comme poète d'habitude, mais en tout cas, c'est aussi il fait un travail extrêmement ce travail de repli,
oui.
N'est-ce pas, dans la langue qui est tout à fait, peut-être pas analogue, mais qui a des rapports avec ce que je cherche à faire. Je voudrais aussi, j'ai oublié de mentionner parmi les Américains, un très grand poète qui s'appelle Laura Riding, qui n'est pas très connue en France, mais un peu quand même, puisque quelques-uns de ses poèmes ont été traduits dans l'éphémère.
Oui. Et en dehors de France.
Hölderlin, Leopardi, quelques poètes italiens, pas très connus en France, comme Villa, Campana.
On va un peu revenir quand même sur l'influence ou le rôle que peut avoir l'Oulipo et le travail que vous faites à l'Oulipo. On découvre, on imagine, on construit des systèmes de contraintes et ensuite ces systèmes de contraintes sont transformés ou non en texte par des auteurs selon leur degré de motivation ou de paresse. Vous aviez écrit des textes d'obédience oulipienne avant d'être à l'Oulipo.
Oui, bien sûr. Oui. J'aurais voulu au moins indiquer que ce que je disais avant sur mes poèmes partant des événements personnels, que cette idée s'appliquait à une partie seulement de ma poésie. Il y a des poèmes, d'ailleurs plusieurs que j'ai lus cette semaine, qui sont fondés sur des contraintes et qui sont purement abstraits, parce que la poésie offre quand même une possibilité d'abstraction que la prose, au moins la prose, à grande échelle, qui dépasse une vingtaine de pages, n'offre pas, à mon avis. Je veux dire que on peut se passer de tout souci narratif, de tout essai de toute espèce d'illusion psychologique.
Oui.
Et la Sixtine que j'ai lue, par exemple, cette semaine, est une double Sixtine avec une Sixtine normale à la fin, mais déjà là, il y a une contrainte, c'est-à-dire que tous les mots sont des mots grecs ou latins qui sont passés tels quels dans la langue anglaise ou française.
Enfin, on a essayé.
Il y a un sextine à l'envers qui part du début des vers avec beaucoup de variations. Il y a dans chaque vers il y a un lieu géographique cité. Et j'en passe parce que je crois qu'il y a encore autre chose. Mais enfin, en tout cas, c'était une espèce de problème oulipien. La verge d'Aaron, jetée à terre en Crète, devint un rhinocéros. La pierre d'évêque est une variété bourre de spécieux géranium. Les trompes de Béarn peuvent à tort être tirées en France d'aluminium. L'anémone de mer, belle sur les sables hispaniques, n'arrive pas à son climax. Le bon Henri pousse peut-être à Guernesey, enfoui sous quelques stratus. Les quatre pattes, comparées aux antipasties du Groenland, provoqueraient un coryza. Quand les quatre patates de Brooklyn se furent passées le coryza,
Une âme énorme métamorphosée en un sibérien rhinocéros dans les WC de pierre tire à dessin copes milésiennes à travers un stratus de verge aérante de Wimbledon collé avec le jus d'un seul géranium. La trompe de Béarn s'étue et le kaléidoscope tchèque n'atteindra plus son climax car sous une bonbonne de roucou importée du Chili, Henri dort dans une boîte d'aluminium, pauvre Henri. Ses tantes du Ghana, au fait, elles ont un boni sur tout l'aluminium d'Oswego, font partie des darons de la verge, et contre le coryza, ont fait extraire des sels d'anémone de mer galloise pour en finir avec ce climax national. Toute la Patagonie qui a tiré leur force fit l'essai d'un rhinocéros nommé Pierre Lévesque, qui, venu d'un soluté grec de géranium, ressemblant à trois ampes en berne, a intéressé plus d'un Afghan stratus. Les crampes de darmes d'Auxerre témoignèrent sous leur propre stratus d'une tendance à rester à quatre pattes, mais aussi d'une indifférence irlandaise à l'aluminium. Cependant que les harengs divergeaient vers Thèbes dans des chuchotis de géranium. La bande de séjour valencien fut déchiquetée en rictus de coryza. Mnémonique, chacun s'émerveilla que le soleil du Cap Hatteras soit rhinocéros piètre avec bande boueuse sublime. Heureux et Montou en climax. Et les vents pères de Charleville divaguent vers un vertueux climax de vase crépitant, riposte à la haie oxonienne, ce stratus d'astre pour les quatre appâts de Lesbos du tableau d'un rhinocéros et les trois trompes béantes contrefaites à Saint-Marin avec un net aluminium. Je crois que je vais mourir sans la vierge pittoresque d'Arus, mais avec un coryza d'anonyme clistère et un sachet basque de puant géranium. Pourtant, l'anémone de mer sur le sable turc titube comme un géranium. Les trompes de Béarn, à côté des prunes de Westphalie, n'arrivent vraiment pas au climax. Le bon Henri jeté à terre à Dakar rendrait amer le coryza. La pierre d'évêque est le terme monégasque d'une triste mythologie de stratus. Les quatre pattes ont poussé à battre, mais pas du tout comme l'aluminium. La verge d'Aaron à Carthage ne voulait ni contrer ni rencontrer le rhinocéros.
Accouplé à une recherche de non-sens, de folie associative,
oui, mais
qui puisse tenir, n'est-ce pas, dans un syntaxe.
J'avais lu déjà dans Locus Solus précisément, il y avait un certain nombre de poèmes qui étaient construits à partir d'exigences absolument incroyables. Il y avait un poème en particulier d'Ashbery.
Oui, d'ailleurs, c'était aussi une sextine de Ashbery et Coke, une sextine. Oui, il y avait.
Il fallait qu'il y ait une vieille femme historique.
Une vieille femme.
Il y a un vieux personnage historique de sexe féminin, un jeu, une plante, enfin, je ne sais pas.
C'est ça, et chaque mot. En fin de verre était un meuble de bureau.
Oui,
c'était absolument extraordinaire.
Il y a aussi des poèmes où il y a tous les, enfin, une énumération de fleuves. Enfin, ça c'est le.
Oui, ça c'est le.
Je pensais que c'était une tradition, enfin, vraiment une tradition américaine. Enfin, une tradition, disons, de l'avant-garde américaine. Ou c'est quelque chose que vous avez inventé pour votre compte. Enfin,
c'est surtout, enfin, c'est Ashbery et Coke qui ont fait ces œuvres en collaboration, comme ça. Je crois que, en général, ce genre de choses relève plutôt des jeux populaires. Ce n'est pas une chose qui était auparavant entrée dans la pratique poétique américaine.
Oui. Mais là, pour l'instant, la poésie américaine n'est pas extrêmement connue en France. Enfin, on peut espérer qu'elle le sera davantage. Il y a un recueil de la nouvelle poésie américaine qui est en principe, on est en train d'être édité chez Gallimard. Et dans lequel vous figurez avec presque tous les poèmes que vous avez lus. Et je ne sais pas quoi ajouter. Enfin, ce qu'on peut espérer, c'est que peut-être à la suite de cette série d'émissions et puis de l'apparition de ce recueil et de l'apparition de vos deux romans, il sera possible de publier un recueil complet de vous en français. Bien que ça soit.
Je demande pas mieux, je plains un peu mes traducteurs.
Oui, moi aussi.
Enfin, ils sauront bien venir à bout.
C'était Poésie ininterrompue. Harry Matthews interrogé par Georges Perec, une émission proposée par Claude Royer-Journoux et diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 août 1975. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger et consulter quelques références bibliographiques sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».